Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Nous entrons dans un antre, dans le sous-sol d'un pavillon de Plonévé-Porzay, un véritable musée. Dès le portail du jardin, puis dans l'allée, devant la maison, et enfin dans l'ensemble du sous-sol. Quelques 800 objets collectés pendant 60 ans, tous consacrés au train, mais au train vapeur. Il s'agit aussi de remonter le temps. C'est une collection née d'une passion, car en entrant dans ce lieu, on est un peu entré aussi dans la tête de son propriétaire, qui est donc Ferrovipat, passionné de train.
Jacques Fitamant, du musée du chemin de fer du Ménez. Passion un petit peu inquiétante, puisque c'est depuis l'âge de 5 ans, quand même. Ma mère, ma maman, avait une copine garde-barrière à Châteaulin. Elle allait tous les vendredis lui porter, la voir bien sûr, mais lui porter son pain paysan circulaire. Là. J'allais donc avec elle. Et des Nord-Africains refaisaient la voie entre après-guerre, quoi. Ils refaisaient la voie entre Quimper et Landerneau. Et ils ont trouvé le petit bonhomme blond sympa. Là, ils me mettaient dans leur engin de chantier pour aller vers le bois du Loc, ça s'appelait comme ça, descendre vers la gare de Châteaulin. Et le soir, bien sûr, j'avais les traces des mains, des doigts de mon père sur les fesses. C'est normal, des étrangers qu'ils ne connaissaient pas. Ils m'ont donné un tire-fond. Il eût été en or, il n'aurait pas valu plus cher.
Qu'est-ce que c'est ?
Une vis pour fixer les rails sur les traverses de bois. Le voilà.
C'est énorme, hein, ça fait bien 15 cm, 20 cm, non ?
Ça fait 17 cm pour être précis, hein, je suis un petit peu exigeant. Voilà, et donc cet engin-là a été le début de ma collection. Alors la vie aidant, il y a des moments où je ne m'occupais pas de ça, c'est normal, puisqu'il y a le travail et tout ça. Mais une fois arrivé en retraite, j'ai ressorti tout ce que j'avais mis de côté. Et en plus, j'ai cherché, voir si je ne trouvais pas autre chose. Il y a eu des chantiers sur la voie de Châteaulin, sur la voie de Plufan, etc., où j'ai encore récupéré des matériels. Et j'ai mis tout ça un petit peu en ordre pour en faire un musée. Voilà.
Et pourquoi la vapeur ?
Ah, la vapeur, parce que c'est le truc de mon enfance. Quand j'étais gamin, je montais à la gare de Châteaulin, où, là où j'habitais, je voyais passer les trains, mais j'étais pétrifié.
C'était la gare actuelle ?
La gare du Paris-Orléans, parce que c'était l'ancienne compagnie, qu'on appelait la gare d'Orléans, devenue Châteaulin-Embranchement, puisqu'il y avait encore trois autres gares à Châteaulin. Il y avait la gare de Châteaulin-Ville, la gare de Port-le-Nez et la gare de Saint-Ségal, sur la commune. C'était un truc, ça, quand je ne savais pas quoi faire avec les petits copains, on allait voir le train, mais alors on ne bougeait pas, on était pétrifiés, il y avait le sol qui vibrait sous nos pieds, là. C'était énorme, quoi.
C'était en quelle année, ça, à peu près ?
Oh ben, je dirais dans les années 55-60. Ah oui, 55-60. Je suis né en 47. Ça commence dans les années 1825 en France, la vapeur, les prémices, et ça se termine exactement en 1969. Fin de la vapeur en France officielle. Donc 1974, à la demande des cheminots, il y a un train à vapeur régulier qui a circulé à la SNCF, parce que ça leur manquait beaucoup. Et il y a quelque chose d'humain qui sort de cette machine, c'est assez extraordinaire. D'ailleurs, si les gens se penchent un peu sur la vapeur et regardent dans les bouquins, les mots, ils sont assez jouissifs, les mots utilisés par les cheminots, mais les conducteurs de locomotives à vapeur, c'est-à-dire le mécanicien et le chauffeur. C'est étonnant le vocabulaire de ces gens-là. Elle jouit, elle prend son pied, parce qu'à l'époque de la vapeur, le mécanicien et le chauffeur, qui étaient les seigneurs du rail, s'occupaient bien plus de leur bécane que de leur fiancée. Et c'était vrai, ça. Là, laissé pour compte, c'était la fiancée, quand même.
Jacques Fitamant a choisi de mettre en avant des métiers moins connus du rail, comme le cantonnier.
À l'heure actuelle, il s'appelle l'agent de la voie, mais à l'époque, c'était le cantonnier. ce cantonnier, il n'était pas comme le cantonnier de la route, qui lui travaillait sur un canton politique. Ce bonhomme, il travaillait entre deux baraques qui se trouvaient au bord de la voie. Entre les deux baraques, c'était le canton. Il n'en sortait jamais. Il travaillait sur le terre-plein, les cailloux qu'on appelle le ballast, les traverses, les rails, mais aussi la verdure latérale. C'était son job. Quand il avait fini d'un bout, il recommençait de l'autre.
Combien de kilomètres à peu près ?
Ah ben ça, ça a été le bazar de la SNCF. La SNCF date de 1938. Avant, ce n'était que des compagnies privées. Il y en avait un sacré paquet, mais il y en avait six importantes. Les six grandes compagnies, le PLM, Paris-Lyon Méditerranée, Compagnie du Midi à côté, c'est Pyrénées, première compagnie électrique d'Europe, Compagnie du Paris-Orléans, de l'Ouest qui deviendra la compagnie de l'État, Compagnie du Nord, de l'Alsace-Lorraine. Vous imaginez bien que le boulanger du bout de la rue ne fait pas le même pain que le boulanger qui est ici à droite. Et bien là, c'était pareil. Compagnie du Nord, on avait 5 km entre les deux baraques du cantonnier, c'est-à-dire le canton. Les autres compagnies, il y en avait à 2 km, d'autres à 1 km de 150, en descendant un peu plus vers le sud. Et bien, pour harmoniser ça, on a fermé ces petites baraques où se trouvait l'outillage du cantonnier. Et on a acheté, on a fabriqué des draisines, des petits véhicules à quatre roues, c'est pas l'engin américain, hein. Un moteur Panhard, attention, c'est bien français, cocorico, et qui traînait des wagonnets, dans lesquels wagonnets on mettait l'outillage. Voilà, ça c'est le grand changement et ça se fait après-guerre. Quand on changeait les rails sur la voie, on changeait les rails deux par deux, bien sûr, ceux qui étaient en face l'un de l'autre, les trains à vapeur roulaient. C'est inimaginable maintenant.
Pendant qu'on changeait ?
On changeait les rails, et donc il y avait les gars en train de démonter les rails, il y avait le chef d'équipe responsable du chantier, bien sûr, de la mise en œuvre, etc., et aussi de la sécurité de ces gars, et le conducteur du train, ben, ils avaient quelque chose de particulier. Il fonctionnait non pas par radio, par téléphone, ça n'existait pas. Il y avait une communication qui se faisait à l'aide de pétards de voix. Non, je ne vais pas en faire fonctionner, ça fait un bruit de canon. Les pétards de voix permettaient de signaler le chantier tant aux gars qui travaillaient sur la voie qu'aux gars qui roulaient sur la voie. Le mécanicien, quand ça pétait à 1,450 km du chantier...
Ouais, il fallait qu'on les entende de loin, en fait.
Voilà. Il réduisait sa vitesse à moins de 10 km/h. Dans le même laps de temps, le chef cantonnier donnait son coup de corne. Les gars mettaient un tire-fond par-ci, par-là, les vis. Et il y avait un personnage qui avait quelque chose de particulier. Ça s'appelle une éclisse à lumière. L'éclisse à lumière permettait de rejoindre deux rails à l'aide de simplement deux boulons. Le train arrivait quelques minutes plus tard, il passait là-dessus. On disait, et dans tous les bouquins on retrouve ça, ça brinque-balle. On imagine bien l'image. Le train était passé, on dévissait l'éclisse à lumière qu'on mettait sous le bras pour aller de l'autre bout, pendant que le collègue mettait l'éclisse définitive.
La pièce. Donc l'éclisse à lumière, c'est une espèce de règle enfin, en métal, hein, assez costaud, hein, c'est ça ?
Rejoindre les rails, pour les réunir. Voilà.
Donc les cantonniers, ils étaient combien sur un tronçon, finalement ?
C'était très variable, hein, mais c'était des équipes drôlement composées. Il y avait beaucoup de monde à l'époque. Dans certains bouquins, ils vous donnent un chiffre, il y avait 48 000 agents de la voie après-guerre. Ils sont autour de 500 maintenant. Mais c'est normal, ils arrivent à extinction parce que ce sont des entreprises privées qui font le boulot.
J'imagine qu'ils désherbaient à la main. C'est parce que le désherbage, on dit des choses sur les pesticides utilisés par les SNCF actuellement.
Oui, alors le désherbage à la main, c'était un peu un fantasme. Le désherbage à la main, malheureusement, comme de partout, on a utilisé des pesticides, des produits immondes. Hein. Et il n'y avait pas que ça, en plus, au chemin de fer. Au chemin de fer, on utilisait sur les traverses de bois, elles étaient créosotées. C'est-à-dire que là-dedans, il y avait des fongicides, des acides, et j'en passe et des meilleurs, qui pouvaient permettre à certaines de ces traverses de durer 70 ans. Mais vos poumons ne duraient pas 70 ans.
La disparition progressive du cantonnier nous dit quelque chose de l'évolution de toute la population cheminote.
Sur Châteaulin, par exemple, gare de Châteaulin, où il y a zéro employé, il n'y a personne. Il y a juste un gars qui vient quand les trains se croisent. Sur Châteaulin, quand j'étais gamin, on avait à peu près 45 personnes à la gare. Autre chose, mon père, il partait au boulot, il était cantonnier aux ponts et chaussées, lui. Il partait au boulot, on n'avait pas de pendule, il partait au boulot à l'heure une telle, définie par le train qui passait. 57 trains en 1952 passaient à Châteaulin. Brest était en reconstruction. 57 trains jour. Enfin, nuit et jour, parce que la marchandise roulait surtout la nuit.
Oui, c'était les mêmes locaux qui tiraient la marchandise et les passagers ?
Oui, ce n'étaient pas les mêmes locaux. Pour la marchandise d'ici, on avait ce qu'on appelle des 140C, hein, c'est un peu du jargon, excusez-moi. Et pour les voyageurs, c'était les machines du plan Marshall d'après-guerre, les 141R. Des machines qui ont travaillé pendant une trentaine d'années avant de passer à la casse. Et des machines qui ont tout fait, de l'omnibus, du train lourd, du train de voyageurs rapide, voire dans le sud, le Mistral, des choses comme ça. Et pourtant, ce n'était que des trains limités à 90 à l'heure. Mais ils ont tout fait.
Il y a eu combien de modèles comme ça de locaux, vous savez ?
Non, aucune idée. Pour les 141R, je peux vous dire, il y en a eu 1430 de commandés, et on en a reçu 1423. Les 17 autres sont au fond de l'océan du côté de Terre-Neuve.
Ah, elles ont coulé dans le bateau ?
Voilà.
Parce qu'elles n'étaient pas fabriquées en France ?
Elles étaient fabriquées aux États-Unis et au Canada. C'est le plan Marshall pour la remontée de l'Europe.
Parmi les métiers du train-vapeur, il y avait aussi cette dame vêtue de noir, en tablier rayé, avec sa corne en bandoulière et son drapeau rouge à la main.
Ici, nous sommes devant un personnage atypique du chemin de fer, d'ailleurs très peu connu, et il n'y a pas beaucoup de bouquins qui en parlent. C'est la garde de traversée. Qui était ce personnage ? C'est l'ancêtre de la garde barrière, qui elle-même a disparu. Et cette dame était la femme d'un cheminot, première chose, mais elle était devenue veuve de cheminot ou femme de cheminot estropié. Au Paris-Orléans, on va inventer ce qu'on appelle maintenant le service social. Cette dame va se faire attribuer un boulot, mais un boulot non rétribué avant 1845. Par contre, on met à sa disposition une maison, un lopin de terre et un puits. Elle peut subvenir aux besoins familiaux. Alors cette dame, elle fait quoi ? Elle est là, non pas comme la garde-barrière plus tard pour la bonne traversée des gens et des voitures, elle est là pour le bon passage du train. C'est complètement différent. Donc le train se fait entendre, elle se met dans une posture devant sa petite maison face au rail, le petit drapeau rouge en l'air, le train, tu peux passer, et une trompe à portée de main au cas où des animaux, une charrette et tout ça voudraient traverser à ce moment-là.
C'est la charrette qui a priorité ?
Non, la charrette n'a pas priorité, pourquoi pas après tout ? Le train roule à entre 25 et 40 km/h. On est au début du 19e siècle, à la moitié du 19e siècle. Plus tard arriveront les gardes-barrières, puis après tout ce qui est automatique.
D'accord, donc ces dames, ces gardes traversées, elles existent jusqu'à quand alors ?
1845, c'est la fin.
Toute l'échelle sociale parcourait le monde du train-vapeur. Le chef de gare était considéré comme le quatrième personnage du village, devant l'instituteur et même le curé. Mais les véritables seigneurs du train-vapeur, ce sont ceux qui conduisaient la loco, quoique c'est elle, la vedette, en fait.
Alors, une locomotive à vapeur, alors on va prendre quelque chose de simple. Une locomotive à vapeur, au début, quand ça a été inventé par Richard Trevisic, c'est un Gallois. C'est pas Stephenson, c'est pas Marc Seguin. Hein. Ça, c'est blabla de l'école, mais c'est pas vrai du tout. Donc, Richard Trevisic, un Gallois, il invente la locomotive à vapeur en 1804. Bah, c'est une cocotte minute, hein. Avec le petit engin que vous avez sur la cocotte à la maison, ben vous ne laissez pas sortir la vapeur, vous la faites passer dans un tuyau. Ce tuyau va jusqu'à un cylindre dans lequel il y a un piston à double effet. C'est ce qu'il y a sur les côtés. C'est ce qu'il y a sur les côtés. Alors, à double effet, pourquoi ? La vapeur pousse sur le piston qui avance, et à arriver à un endroit, hop, il se retrouve devant un autre trou qui ramène de la vapeur, et il repart en arrière, ainsi de suite. Voilà, ça c'est le principe de fonctionnement.
Et alors le gros cylindre qui est devant avec les cheminées, alors ça sert à quoi ?
Ça c'est la chaudière. De la cabine jusqu'à sous la cheminée, c'est la chaudière. Et le rond que vous avez à l'avant, ça s'appelle la boîte à fumée. Ça, tous les jours, voire deux fois par jour, on ouvrait la boîte à fumée pour enlever les résidus de cendres qui se trouvaient là-dedans.
La réserve d'eau, elle était...
La réserve d'eau, c'est le temps d'air. Alors, beaucoup de personnes, même de ma génération, pensent que c'est une remorque de charbon.
Bah oui.
C'est une remorque d'eau sur laquelle, remorque d'eau, on pose le charbon. Voilà.
Et il y a un tuyau qui emmène l'eau ?
Il y a une goulotte au milieu pour que le charbon descende au niveau des pieds du chauffeur, bien sûr, qui va prendre des pelletées. Et autrement, pour l'eau, bien sûr, il y a des tuyaux qui vont à la machine pour faire de l'eau chaude dans la chaudière.
Le combustible, ça a toujours été le charbon. Il n'y a jamais eu de locomotive à vapeur à autre chose.
Si, si. Les Américaines vont nous apporter quelque chose d'assez extraordinaire, un peu polluant. Les Américaines, je n'ai pas le chiffre exact, mais je crois que c'était 10% qui sont arrivés au fioul lourd, au goudron. Donc, il fallait d'abord chauffer ce goudron pour le liquéfier, pour qu'il vienne à la bécane. Mais c'était une conduite extraordinaire d'après les mécaniciens et chauffeurs. C'était incroyable la différence entre la charbonnière et la fioul. Ça n'avait rien à voir d'après eux.
C'était quoi, plus confortable ?
Confortable et facile à conduire, souple, moins de remue-ménage là-dedans, ça bougeait beaucoup moins. C'était totalement différent.
Toute vivante qu'elle est, Hulaire, la locomotive était donc tout de même dotée de deux humains.
Le mécanicien en France, il est à gauche, parce que nos trains roulent à gauche en France. Il est à gauche, la signalisation à gauche. Petite chose quand même, en Alsace-Lorraine, les trains roulent à droite. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient allemands jusqu'en 1918. On leur a laissé le système de rouler à droite, la signalisation étant déjà à droite. Donc le mécanicien chez nous à gauche, le chauffeur à droite. Le mécanicien, c'est le chef de la conduite. Il voit la signalisation, c'est lui qui s'occupe de la vitesse, etc. Le chauffeur, quant à lui, il a tout ce qui est huile, eau, charbon et vérification des pressions et tout ça. C'est ce monsieur-là. Le mécanicien, le premier jour de la semaine, il commence 7 heures après son collègue. Puisque la mise en chauffe et en pression, c'est 7 heures. Les autres jours, il ne commence pas 7 heures avant, il ne faut pas exagérer, les autres jours, c'est 2 heures. Le chauffeur commence 2 heures avant son collègue mécanicien.
Est-ce qu'il y a une hiérarchie entre eux ou pas ?
La hiérarchie entre eux, on va dire oui et non. C'est un petit peu normand. Parce que ces deux gars-là, avant-guerre notamment, ils sont entre guillemets mariés. C'est-à-dire que si Dieu leur prête vie, ils vont faire toute leur carrière ensemble. Sur leur bécane, ça va complètement changer après-guerre. Leur bécane, je disais tout à l'heure qu'ils s'en occupaient plus que de leur fiancée. Leur bécane, c'est leur bécane. Personne ne vient jamais là-dessus. Après-guerre, on va changer et on va appeler ça le travail en banalité. Les deux gars qui sont là travaillent sur la bécane jusqu'à 20h et après 20h, c'est une autre équipe. Et là, la SNCF ne va jamais s'y retrouver. Mais jamais, jamais. Puisqu'il y a des gars pas sympas qui débarquent en laissant un petit problème, qui devient un monstre de problème après avec l'autre équipe. Alors pourquoi ça ? Parce qu'avant-guerre, il y avait les économas du chemin de fer. Ces économas du chemin de fer, c'était une sacrée administration dans le chemin de fer. Et les gars qui travaillaient dans les dépôts, les conducteurs de locomotives à vapeur, mécaniciens et chauffeurs, s'ils étaient les meilleurs avec leurs machines du dépôt pour l'année, il se faisait octroyer par les économes du charbon pour la famille, de la viande et du beurre. C'était assez émoustillant. Donc ces gars-là faisaient attention à la consommation d'eau, à la consommation de charbon, à l'entretien de leur bécane, à faire l'heure. Parce qu'au chemin de fer, on ne dit pas « je suis à l'heure ». Vaut peut-être mieux pas déjà maintenant, mais on dit « je fais l'heure ».
Parce que le sifflet qu'on entendait au loin, finalement, c'était un peu comme la cloche de l'église, quoi. Ça faisait l'heure.
Voilà, c'est ça. Mais être à l'heure, déjà, au chemin de fer, c'est faire l'heure.
Alors, vous dites que c'est les seigneurs qui conduisaient la loco, mais c'était quand même très dangereux. Enfin, j'imagine quels étaient à la fois les inconvénients et puis les dangers.
Alors, danger, ben, y a une chose quand même qu'on a du mal à imaginer à notre époque, c'est que le mécanicien, le chauffeur, il ne voit rien du tout, quoi. C'est qu'il ne voyait rien devant. Dans la journée, il y avait la petite vitre devant, mais en général, on mettait les lunettes sur les yeux pour mettre la tête à l'extérieur de l'habitacle. Mais quand je vous dis qu'il ne voyait rien, avant-guerre, il n'y avait pas de phare sur les locomotives. Il y avait des fanaux. Alors, différence, le fanal, il a une petite lumière à l'intérieur. Vous entendez le train de nuit, vous regardez, la lumière est blanche, le train vient vers moi. La lumière est rouge, le train s'en va devant moi. Mais le mécanicien et le chauffeur, eux, ils ne voient rien. Le mécanicien à sa gauche, il ne voit qu'une chose, c'est la signalisation qui a été allumée par un personnage qu'on a oublié au chemin de fer, le lampiste. Ce monsieur a été allumé la signalisation à gauche, bien sûr, de la locomotive. Il a été allumé ça avec sa bicyclette, sa remorque derrière, avec toutes les lanternes, qu'elles soient à carbure, au pétrole, etc. C'est lui qui fait ça. Il allume, il va les éteindre le matin, les repréparer pour la nuit suivante. Et c'est un personnage que tout le monde rejette, entre guillemets, bien sûr. C'est pas très valorisant, d'ailleurs, quand on regarde la définition, le dictionnaire, maintenant, on s'en rend compte. Mais ce monsieur, c'était pratiquement un des plus mal payés au chemin de fer, qui endossait des responsabilités qu'il n'avait pas endossées. Du genre, accident dans un tunnel, je crois que c'était à Verdun, je ne me rappelle plus, je crois que c'est ça. Accident dans un tunnel de nuit. Un équipage, donc deux mécaniciens et chauffeurs sont tués. Dans l'autre locomotive, le chauffeur est également tué. Et le mécanicien s'en sort avec des blessures légères. Et bien le gars, pendant toute l'enquête, il va jurer les grands dieux que le sémaphore n'était pas allumé. C'est-à-dire que le lampiste n'avait pas fait son boulot. 17 ans plus tard, il dormait mal depuis 17 ans, ce monsieur, sur son lit de mourant. Il va avouer à sa famille qu'il est monté au sémaphore éteindre la lampe pour faire penser que c'était le lampiste qui n'avait pas fait son boulot. Il n'y avait pas que des gens bien partout, hein, et ça change pas beaucoup. Mais ça, c'est énorme quand même. Donc le lampiste, c'était un bonhomme qui n'était pas considéré du tout, et ça disparaît dans les années 60-70.
Donc danger, on voit rien. Et quoi d'autre? Je sais pas, explosion de chaudière ou un truc comme ça.
Ils sont en première loge, hein, quand il y a un pépin, hein, c'est pour eux, hein, c'est eux qui sont devant. Alors en plus, au chemin de fer, au début du chemin de fer, même début du XXe siècle, les voitures ne sont pas en ferraille, les voitures sont en bois. Donc quand il y a un accident, les gens sont transpercés par les éclats de bois, c'est épouvantable, quoi. On dit la ferraille c'est dangereux, mais le bois c'est pire. Dans les accidents du début du XXe siècle, il y a eu des morts qui auraient pu être évitées si ça avait été des véhicules en métal.
Et donc sinon, ben, on a parlé longtemps des primes d'escarbilles ou des choses comme ça. Là. Bon là, c'était les inconvénients plutôt, on va dire. J'imagine qu'il faisait chaud aussi.
Ah ben, sur une machine à vapeur, vous êtes en mouvement perpétuel. C'est-à-dire, la locomotive roule, les bielles de gauche sont en haut, les bielles de droite sont en bas. C'est un déséquilibre en permanence. C'est-à-dire que vous êtes tout le temps à remuer sur votre colonne vertébrale. Maintenant, je ne sais pas si ça pourrait encore exister. Et en plus, on va pas dire qu'on ne s'entend pas. On n'entend rien. Mais si, on entend tout, mais on ne sait pas ce qu'on entend. C'est un bout de ferraille qui roule sur de la ferraille. Je ne vous dis pas le truc, quoi. L'escarbille, alors ça, c'est une autre histoire. L'escarbille, pendant des décennies, on n'avait pas de lunettes. On avait la casquette, dite casquette à la normande, avec une visière qui descendait profondément sur les yeux. C'est-à-dire que de temps en temps, on levait un peu les yeux pour voir ce qu'il y avait à notre niveau, Mais on ne regardait jamais cette cheminée qui était énorme à l'époque, au début de la vapeur, une cheminée qui faisait 2 mètres, 2 mètres 50, de façon à ce que normalement la fumée passe au-dessus d'eux. Et dans cette fumée, il y avait de la poudre incandescente de charbon qu'on appelait des escarbilles. Donc pour se protéger, on avait une casquette spéciale avec une visière vraiment très inclinée. Il n'y avait pas de lunettes au départ.
Jacques Fitamant en possède une cabine de vraie locomotive, mais un peu particulière.
Alors, petite locomotive qui vient du Schnorr, avec une voie de 50 cm.
Oui, c'est vraiment pas large. Hein.
Non, c'est pas large. Et en plus, c'est brinque-ballant, comme je disais tout à l'heure, puisque c'est une machine qui roule dans les champs pour aller prendre les betteraves à sucre dans les champs. Alors cette locomotive, là, elle a servi jusqu'en 1967 en tant que locomotive. Et ensuite, elle est devenue cabine pédagogique pour la formation des gars qui allaient travailler sur ces machines. Ce sont des employés de l'usine, hein, des employés de l'usine qui allaient de l'usine au champ et du champ à l'usine. Donc ils étaient formés à l'usine. Fin du 19e et début du 20e siècle, les déplacements, que ce soit des automobiles, comme on dit plus tard, c'était aussi à la vapeur. La voiture marchait à la vapeur. Il y avait le cheval et le cheval-vapeur.
Et à propos de cheval...
C'est la cloche qui était en plus du sifflet de la locomotive, au cas où des animaux courent devant dans le champ.
Pour découvrir les autres objets qui racontent l'histoire du train-vapeur en France dans le sous-sol de Jacques Fitamant, il faudra prendre le prochain train, une deuxième navette de l'émission Ribine.